Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Pierre-François Lelouette. Il est le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin et il est aussi le président du cabinet de conseil en création et en innovation Nelly Rodi. Dans cet épisode, on parle beaucoup de la Fédération, de sa genèse, de son rôle, des chantiers auxquels Pierre-François s'est attelé. On y parle aussi de digitalisation de la mode, de développement durable et de nouvelles façons de vendre la mode. C'est un épisode passionnant, j'ai adoré interviewer Pierre-François, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Pierre-François Lelouette. Bonjour Pierre-François.
Bonjour Adrien.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, j'ai 44 ans, je suis l'heureux père d'un divin enfant et je suis président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, président de Nelly Rodi et de toutes les filiales de Nelly Rodi dans le monde.
D'accord. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça et à la présidence de la Fédération ?
Alors j'ai un parcours totalement atypique, que ce soit chez Nelly Rodi ou que ce soit à la Fédération du prêt-à-porter féminin. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis président de Nelly Rodi. J'ai commencé ma carrière chez L'Oréal en sortant de l'IFM, donc je suis diplômé en 1998, et de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, en 1997. Et avant ça, j'avais fait des cagnes, moi. Donc j'ai fait 3 ans de classe préparatoire littéraire et scientifique, les cagnes S. Et puis j'ai aussi fait un peu de licence d'histoire. Enfin, j'ai fait une licence d'histoire à l'université à Sorbonne. J'ai commencé une licence d'économie aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de petites choses à droite, à gauche. Mais ça m'a mené jusqu'ici. Voilà. Et atypique aussi, parce que président de la fédération, je ne suis pas président d'une marque de mode. Or, la fédération du prêt-à-porter féminin, qui date de 1929, donc vieille dame, a toujours eu comme président des présidents de marques de mode. Ouais. Puisque le métier de la fédération, c'est de représenter ces marques de mode et de représenter les chefs d'entreprise de ces marques de mode. Et il se trouve que moi, j'en ai jamais dirigé. Donc, j'ai investi dans des marques de mode. Je pilote bien sûr Nelly Rodi, ce cabinet de conseil en création et en innovation, qui a été fondé par ma mère en 1985. Et qu'on a développé beaucoup, qu'on a transformé, on a opéré une jolie mutation, etc. On a investi via Nelly Rodi Moneybox, notre filiale d'investissement dans les marques de mode, mais je ne dirige pas moi-même de marque de mode. Voilà, donc atypique aussi sur ce plan-là.
Très bien. Parlons de la fédération. Alors, c'est quoi la genèse de la fédération, son rôle et ses actions auprès des marques de mode, justement?
Alors, la Fédération du prêt-à-porter féminin fait partie, je crois, des 19 fédérations de notre écosystème. L'écosystème fédéral de la mode en France, il est excessivement éclaté. Le cuir, l'habillement, le textile, la chaussure, enfin tout ce qu'on veut. Là, il y a à chaque fois qu'il y a un métier un peu traditionnel, il y a une fédération. Et le prêt-à-porter féminin, donc qui date de 1929, est à la fois une des plus anciennes fédérations et une des plus puissantes, parce que c'est nous qui rassemblons un très grand nombre d'entreprises. On représente 600 entreprises en France aujourd'hui, qui sont rassemblées dans 8 syndicats régionaux. Et ces 8 syndicats régionaux à Lille, Marseille, Cholet, etc., sont rassemblés dans la fédération. Donc on représente à la fois des marques et également des fabricants. Oui. Donc tout l'ouest de la France, avec plusieurs dizaines, voire centaines de fabricants, sont également rassemblés et représentés par la Fédération du prêt-à-porter féminin. À quoi ça sert ? Alors, quand on dit représenter les marques de mode, ça fait très flou, voilà, ce truc. On se dit toujours, à quoi sert une fédération professionnelle ? Alors, moi, je préfère parler à la fois de la big picture, c'est-à-dire que représenter, ça veut dire défendre, promouvoir. Et il y a énormément de sujets à défendre et à promouvoir, qui peuvent être des sujets de convention collective. C'est pas très glamour, mais fixer des minimums de salaire, ça veut dire quand même beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et pas que, les modalités pour prendre des congés, nombre de vacances, enfin tout ce qui est convention collective. également mener, comprendre l'environnement dans lequel les marques de mode évoluent.
Ouais.
Donc ça, c'est pour moi très important, et ça a peut-être été une des grandes nouveautés qu'on a mises en place depuis 2 ans maintenant. Ça a été qu'on a lancé des grandes études stratégiques, parce que le monde de la mode évolue à la vitesse de la lumière en ce moment, et qu'il fallait que toutes ces marques de prêt-à-porter que nous représentons comprennent un petit peu mieux comment ce monde va. On va peut-être revenir dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment un des points clés pour moi qui sont importants. Et puis, il y a plein d'actions ensuite qui sont faites. De défense auprès du législateur. Le crédit d'impôt collection aujourd'hui, c'est quand même 200 000 euros tous les 3 ans, donc il faut le défendre. Si on ne l'a plus, il y a beaucoup de marques de mode qui vont mettre la clé sous la porte.
Juste pour les auditeurs, le crédit d'impôt, c'est quoi ?
C'est sur 3 ans, ça permet aux marques de mode d'économiser 200 000 euros. Voilà, de payer moins d'impôts sur 3 ans. Donc, il faut déjà, pour atteindre 200 000 euros, faire un petit chiffre d'affaires. Mais c'est un maximum. Et c'est surtout très, très, très utile parce que ça permet de financer beaucoup de frais liés aux collections, au développement des collections.
À la fabrication.
À la fabrication, à la conception des collections. Et ça aide considérablement donc les marques à se démarrer et à se développer plus facilement. Donc il y a plein de sujets comme ça auprès du législateur qu'il faut défendre. Et puis il y a beaucoup de sujets liés au développement très concret des entreprises. Donc la fédération traditionnellement a une action à l'export. Elle donne de très nombreuses subventions, soit directement, soit via le DEFI, qui est un autre organisme
indépendant de la fédération.
Enfin, dont je suis administrateur quand même, et dont d'autres administrateurs de la fédération sont aussi administrateurs. Donc tout ça est un peu lié, mais qui donne des subventions à l'export pour aider les marques françaises à se développer. Parce qu'on voit qu'en France, depuis 10 ans, le marché du prêt-à-porter féminin s'est bien cassé la figure. En gros, on a perdu 20%. C'est la première fois cette année que j'ai pu annoncer des chiffres positifs sur l'année 2017. Donc, on est peut-être arrivé à un point bas, je l'espère, et ça va peut-être remonter maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que les exportations, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, il faut continuer à booster ça, et elles augmentent aussi parce qu'on aide les entreprises à aller sur les salons professionnels, à se développer à l'export. On organise nous-mêmes des salons professionnels à l'étranger. On organise la plus grande manifestation française au Japon avec un salon qui s'appelle Made in France, avec 80 exposants. Ça fait 2 fois par an, donc énormément de gens qui vont voir le Japon et qui vont exposer la mode française au Japon. Et là, on a ouvert une toute nouvelle section pour des labels plus contemporains dans ce salon à Tokyo. On fait la même chose à Taïwan, on fait la même chose à Shanghai. Ouais. Et dans pas mal d'autres pays, donc ça, c'est une grosse action. Et puis, on invite aussi des acheteurs ici à Paris. Étrangers à découvrir des marques françaises. Et puis on organise aussi des formations pour que tous ces directeurs export soient un peu mieux formés et comprennent un peu mieux les marchés dans lesquels ils vont. On a tout un axe aussi dédié aux entreprises, où on organise un peu plus de 300 rendez-vous à la fédération pour aider les entreprises à trouver des financements, à trouver des subventions, à trouver le bon banquier, le bon expert comptable, à y voir plus clair dans leur business plan. Donc on a un service qui est dédié à ça. On a un programme que nous avons lancé aussi il y a 6 mois dédié à la jeune création qui s'appelle Talent.
Ouais.
Où là, on accompagne vraiment 5 champions de demain, donc 5 marques sur lesquelles on parie. Et là, on leur donne un coup de booster avec des coachs, des experts.
C'est qui par exemple ?
Maison Château Rouge,
ouais.
Qui est une des marques qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup. Qui a été fondée par Youssouf Fofana au métro Château Rouge, qui utilise des tissus africains et qui, dans le quartier de Château Rouge à Paris, fabrique des vêtements qui se vendent comme des petits pains, avec un concept super sympa, ce qui nous a permis de le mettre dans l'avion d'Emmanuel Macron dans sa tournée en Afrique aussi, parce qu'il y a aussi une association qui s'appelle les oiseaux migrateurs et qui reverse dans certaines communes d'Afrique une partie des profits de Maison Château Rouge. Donc, il y a Maison Château Rouge, il y a Atline, qui est une maison qui défile, avec Antonin Tron, le designer, qui est quelqu'un qu'on aime aussi énormément, qui est d'ailleurs hébergé à la Fédération du prêt-à-porter féminin. On a les copains de Proem de Paris, très jolie marque également, qui a un très joli concept sur l'écriture, la poésie, un côté très érudit de la mode, retranscrit dans ses vêtements. On a UNX, qui est une marque qui a un concept qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de raconter encore, qui, elle, s'inspire du Krav Maga, des sports de combat, donc un côté très sportswear, ouais. Et qui a connu une première vie, puis maintenant essaye de se relancer avec un très joli succès. Ouais. Donc on est vraiment très heureux parce que on voit que le programme Talent est très utile pour eux. Et puis on a Karine Lecky, qui, elle, a un profil plus calme, de designer, plus traditionnel, qui fait des vêtements d'une qualité exceptionnelle, qui expose sur Woman, le salon à Paris notamment, et qui a été sélectionnée également.
Et donc, comment vous les choisissez, ces gens ?
Alors, cette première promotion, on a fait un peu... c'était une promotion test, quoi. Ouais. Donc, on a fait comme on a pu pour essayer de convaincre, et on est très heureux, là, des résultats, parce qu'on est en train d'aboutir, on est dans... plein milieu du deuxième semestre du programme, et on voit les résultats qui sont très très positifs et les très gentils mots et surtout les très jolis chiffres de ces entreprises.
Génial.
Qui évoluent bien. Et là maintenant, on met en place un comité de sélection pour la deuxième promotion. Donc appel à candidature, les choses vont se faire au mois de mai, donc contactez la Fédération du prêt-à-porter féminin, n'hésitez pas. C'est un programme qui est en train de s'installer dans le paysage, de faire ses preuves et d'être vraiment utile. Donc on a le programme Talent, on ouais. organise un salon aussi à Paris qui s'appelle Trafic et qui lui est dédié oui. aux services et aux solutions pour les marques de mode. Ouais. Donc les visiteurs cette fois-ci, ce sont vraiment les marques de mode, elles n'exposent pas. Les gens qui exposent, c'est les gens qui proposent des services ou des solutions. Donc toute la fashion tech, les aides à l'export, les chambres de commerce internationales, des solutions retail, merchandising, digital, des salons digitaux, etc., des organismes de formation, des recruteurs, enfin voilà. Tous les gens qui peuvent permettre à une marque de mode de bien se structurer. On vient de clore la troisième édition de Trafic, c'est un salon qui a lieu tous les ans au mois d'avril. Mmh. Au Carreau du Temple à Paris, ça a été un super succès parce que au-delà de ces rencontres avec ces 80 exposants, c'est 12 conférences, 50 workshops. Donc c'est 2 jours où il y a 2000 visiteurs qui viennent très qualifiés et ça voilà, ça bouillonne d'idées, d'échanges, de partage. C'est extrêmement dynamisant.
Qu'est-ce qui vient visiter ce type de...
Les petites marques, les grandes marques, les marques de luxe, les chaînes spécialisées du nord de la France, les chaînes parisiennes, les marques installées, les marques qui se lancent. C'est très divers. Et moi, j'adore cette diversité-là. Voilà. Parce qu'elle est très à l'image de la fédération, en fait. Elle est très à l'image de ces vieilles marques comme Gérard Darrel qui font partie de notre fédération, de ces toutes jeunes marques qui se lancent et qui ont envie de se construire un avenir, qui savent pas encore si elles doivent défiler, si elles doivent vendre sur le net, si elles doivent vendre sur des salons professionnels. La diversité des modèles économiques, elle est à l'image de notre fédération. On peut être vieux, on peut être jeune, on peut être une grosse marque, une petite marque, une marque digitale, une marque wholesale, whatever. Nous, on prend tout le monde et on est très fiers de cette diversité et d'inclure comme ça dans cette famille de la Fédération du prêt-à-porter féminin tous les visages du prêt-à-porter féminin français.
Très
Alors, il y a des marques dont on s'occupe pas.
Ouais.
Les marques dont on s'occupe pas, c'est beaucoup de marques installées qui défilent. Donc, on n'est pas la fédération de la haute couture et de la mode. Nous n'organisons pas les défilés de la Fashion Week parisienne. Et puis, on prend pas non plus les très, très grosses. C'est-à-dire que les très grosses chaînes spécialisées, les Camailleux, les Promodes, etc., elles sont pas dans notre fédération. Nous, ce sont les marques indépendantes que l'on représente. Donc, les marques qui font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qui se reconnaissent donc dans cette diversité, cette indépendance, puis je pense un certain dynamisme, une certaine vision de comment le secteur évolue en ce moment.
Pourquoi il y a tant de fédérations et pourquoi elles se regroupent pas à un moment ou à un autre ?
Alors ça, c'est un de mes grands regrets. Moi, j'ai été élu pour qu'il y ait plus de rapprochement en tous les cas entre les fédérations. Parce que je considère qu'il y en a beaucoup trop, que cet éparpillement fédéral nuit à notre représentation vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'étranger également.
Et ça va changer ça ou pas ?
Alors, ce qui a changé déjà, c'est qu'on fait beaucoup plus de choses ensemble. Depuis qu'il y a eu un nouveau président exécutif à la Fédération de la Haute Couture et depuis que j'ai été élu il y a 2 ans maintenant, on fait des programmes ensemble, on a fait un forum de la mode ensemble, ouais. On a obtenu des financements complémentaires pour la mode, on a obtenu ce fameux dîner de la mode à l'Élysée avec génial, le président Macron.
L'impulsion, elle vient de vous?
Elle vient des professions, hein, très clairement.
Vous avez demandé à rencontrer...
Non, c'est pas nous qui avons demandé, c'est le président qui décide, hein, ouais. Quoi qu'il en soit. Mais s'il a eu envie, je pense, de dîner avec des gens tout aussi sympathiques, c'est qu'il en avait entendu parler, quoi.
Ouais.
Et ça faisait 34 ans que c'était pas arrivé. Donc, je pense que tout le travail que les équipes de notre fédération et que des autres équipes des autres fédérations font contribue à ce développement.
Ouais.
On a aussi des très jolis liens avec le ministère de la Culture qui a développé là un nouveau fonds pour aider les nouvelles marques de mode à présenter leurs collections. C'est 300 000 euros par an. Au ministère de la Culture, on a aussi développé tous nos liens avec le fameux IFSIC, qui est un peu le Graal du financement, parce que toutes les marques de mode cherchent de l'argent, qu'elles soient vieilles ou jeunes, ou petites ou grandes. Et l'IFSIC, c'est l'Institut du financement des industries culturelles. Mmh. C'est notre banque de la mode, en fait. Et elle donne des prêts à des taux très bas. Et avant, il y avait des critères un peu restrictifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de critères. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Mmh. Ça a déjà permis à plus d'une centaine de dossiers, hein, d'être traités par l'IFSIC et donc de bénéficier de financement. Et aujourd'hui, il y a de très nombreuses, très jolies marques de mode françaises qui vivent grâce à ces prêts de l'IFSIC, ouais, qui sont très, très, très sympathiques.
Comment elle se finance, la fédération?
Alors, elle se finance grâce aux cotisations de leurs adhérents,
ouais,
en partie. Mais ça, c'est 0,00 quelque chose pour cent de nos sous, parce que les cotisations sont très basses.
Ouais.
L'essentiel de notre financement vient de notre patrimoine. C'est que depuis 1929, mais il y a eu des périodes excessivement fastes pour le prêt-à-porter féminin français, qui nous a permis de constituer un joli patrimoine. On a organisé des salons aussi qu'on a vendus par le passé. Donc aujourd'hui, ces revenus du patrimoine nous permettent de vivre, de bien vivre et de faire vivre la profession. Et puis, il y a une autre source de financement pour toutes les actions de notre fédération, c'est le défi qu'on a évoqué tout à l'heure.
Oui.
Qui est un comité de promotion des industries de l'habillement. Alors ça aussi, c'est un truc absolument technique. Donc vous voyez, il y a plein de trucs qui ne sont pas très glamour dans les fédérations. Mais il faut quand même s'y atteler, parce que si on ne s'y attelle pas, en fait, il n'y a rien qui se passe.
Mm.
Et donc, le défi est une cagnotte, un organisme qui récolte une taxe de 0,007%, je crois, sur les importations et sur les ventes de prêt-à-porter en France. Et tout ça, ça constitue plusieurs millions d'euros. Et les fédérations proposent des projets au défi pour financer justement ces différentes actions. Et nous, au prêt-à-porter féminin, ça représente aussi plusieurs millions d'euros,
ouais,
pour financer les aides à l'export, pour, ouais, financer le programme de conférence de trafic, pour financer... le programme talent dont on a parlé aussi. Donc, le soutien du défi est excessivement précieux pour l'ensemble de la filière. Et cette petite taxe que les gens, qui est à peu près indolore, inodore pour beaucoup, finalement, quand on rassemble tout cet argent-là, ça fait une vraie cagnotte qui sert à faire des choses extraordinaires.
Mmh.
Pas que pour notre fédération, mais aussi pour toutes les autres fédérations.
Alors, vous, votre dada, votre gros chantier, à vous, Pierre-François, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que vous voulez faire bouger dans la fédération?
Moi, j'ai un gros enjeu, mais c'est les jeunes marques.
Ouais.
C'est que cette émergence des jeunes marques, il faut absolument qu'on l'aide, qu'on la booste. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le programme Talent. C'est pour ça qu'on accueille vraiment beaucoup de jeunes marques à la fédération. Il y en a beaucoup qui adhèrent et c'est très sympathique. Mais si elles adhèrent, c'est parce qu'on a réussi aussi, je pense, à connecter la fédération avec la modernité. Et la modernité dans la mode, c'est la digitalisation des modèles économiques.
Mmh.
Donc là, on a fait une très grosse étude là-dessus avec le cabinet Faber-Novel, qui est extraordinaire, hein, qui a suscité un enthousiasme énorme à Paris, qui maintenant part en région. Il y a déjà eu des centaines de personnes, de chefs d'entreprise, qui ont participé aux restitutions.
Qu'est-ce qui en ressort de ça?
Ce qu'il en ressort, c'est que d'abord, il ne faut jamais prendre, et on le sait, hein, le numérique comme une pompe à fric en plus, mais que c'est des attitudes, des comportements, une relation aux autres, une conversation à mettre en place avec, avec ses clients, ses amis, sa communauté, et avant tout. Et ce mindset-là, soit on l'a, soit on l'a pas, mais il faut quand même essayer de l'avoir aujourd'hui si on veut développer une marque de mode.
Ouais, c'est clair.
Le deuxième axe de la modernité, c'est le développement durable. Donc là, pour la première fois l'année dernière, la fédération a fait une étude sur ce sujet. On va accélérer cette année. On va lancer des nouveaux projets au deuxième semestre. L'industrie de la mode est une industrie polluante, très polluante, et c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc la fédération est très engagée pour que les choses changent et pour faire prendre conscience à nos gentils adhérents qu'il faut qu'ils changent eux-mêmes sur ce plan-là. Parce qu'on ne peut plus accepter ça.
Comment c'est reçu ? De toute façon, il y a une demande du marché qui est énorme, j'ai l'impression. C'est devenu... tout le monde parle de ça, j'ai l'impression.
Ouais, tout le monde parle de ça, et en même temps, c'est super compliqué à mettre en place. Donc, c'est très bien reçu de la part des chefs d'entreprise. Ils ont tous envie de faire un truc, mais ils ne savent pas par quel bout commencer.
Parce qu'il n'y a pas de solution encore industrielle.
Parce qu'il y a plein de chantiers à lancer, en fait, et qu'on ne sait pas par où commencer. Les chefs d'entreprise ont du mal à prioriser leur histoire. Et il y en a déjà beaucoup qui font, parce qu'ils font du made in France, ou du sourcing de proximité, y compris de leur tissu. Déjà, arrêter d'acheter 100% de ces tissus en Chine, c'est énorme, quoi. Donc, il y a énormément de sujets sur le sourcing qui sont importants, mais aussi sur le comportement avec les salariés, les ressources humaines, la responsabilité sociétale. Donc voilà, on a déjà commencé à creuser le sujet. Et là, on va être dans des cas beaucoup plus pratiques pour justement proposer des solutions aux chefs d'entreprise et qu'ils puissent commencer à prendre en main ce sujet de manière très opérationnelle.
Vous parlez avec les mouvements comme Fashion Revolution, comme Anti-Fashion, comme Une autre mode est possible, etc. Vous parlez avec eux ?
Oui, le dialogue est récent, pour être très clair. Là aussi, j'adhère pas à tout. Parce que je pense qu'il y a des choses excessivement dangereuses et que moi, je veux pas jeter l'opprobre sur des pratiques ou des gens qui déjà font un petit peu, quoi. Je préfère encourager, développer, être dans une vision positive et pas forcément anti. Mais pro-développement durable, pro-responsabilité sociétale, pro-une nouvelle mode, une nouvelle génération, des nouveaux entrepreneurs qui, de toutes les façons, mettent ça au cœur de leur histoire. Quand on veut se lancer aujourd'hui, si on ne prend pas ça aussi en considération, franchement, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir une résonance. Donc, il y a à la fois des évidences, des choses qu'il faut pousser, qu'il faut encourager, mais moi, je ne suis pas là pour prendre le bâton et pour taper sur les gens. Donc, ce ne sera pas l'axe de la fédération. L'axe de la fédération, ce sera d'encourager, de mettre en avant les nouvelles initiatives, de discuter avec tout le monde. Voilà, à titre personnel, je n'engage pas la fédération, mais j'aime beaucoup l'action de Fashion Revolution. J'aime cette idée de marcher, de faire savoir, de participer comme ça à tout ce mouvement. J'aime les actions de CASA 93 en Seine-Saint-Denis, de cette école également qui elle-même est proche de Fashion Revolution. Donc voilà, tout ce mouvement-là est très important. On a déjà abordé ce sujet, notamment au cours du dernier salon Trafic. On a rassemblé beaucoup d'acteurs pour parler de tout ça et faire prendre conscience à l'audience qu'il était temps de s'en occuper. Donc voilà, on s'en occupe. La modernité, donc c'est, on l'a dit, la digitalisation, c'est le développement durable, c'est aussi la transformation des manières de vendre la mode. On ne fait plus du wholesale aujourd'hui comme on le faisait il y a 15 ans. On ne fait plus un salon professionnel comme on le faisait il y a 15 ans. Aujourd'hui, une marque de mode, si elle a 2000 euros ou 3000 euros et qu'elle se lance, la première chose qu'elle va faire, c'est peut-être de lancer son site internet. Et avant ça, elle aura de toutes les façons déjà ouvert un compte Instagram ou autre chose, quoi. Elle se lance pas en créant d'abord des produits et en les mettant sur le floor quelque part. Donc cette idée là de comment les acheteurs achètent aujourd'hui la mode, on l'a beaucoup creusé à la fédération. On a aussi fait beaucoup d'études, on a interviewé 60 acheteurs français et internationaux pour savoir comment est-ce qu'ils détectent les nouvelles marques, qu'est-ce qu'ils attendent d'une marque aujourd'hui
Qu'est-ce qu'il en ressort, ça?
Bah, il en ressort que, à la fois des poncifs, mais des. Enfin, oui, un acheteur de grands magasins internationaux aujourd'hui, la manière dont il découvre une nouvelle marque, c'est sur Instagram. Donc, c'est un poncif de dire ça. En même temps, de se dire très clairement que c'est plus sur un salon professionnel ou que c'est plus dans la presse magazine, ça remue beaucoup, beaucoup de gens.
C'est clair.
Et ça remue sur les missions de la presse, sur les missions des salons professionnels que l'on soutient beaucoup aussi dans leur transformation. Il se passe plein de trucs en ce moment à Paris sur ce sujet et c'est vraiment très, très enthousiasmant parce que Paris est sur la mode féminine vraiment le leader européen incontesté. Hein. Il y a des dizaines de milliers de marques qui viennent à Paris dans des salons, dans des showrooms présentés.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc c'est vraiment impressionnant. Il faut qu'on conserve comme ça toute cette attractivité de la place parisienne. Mais pour la conserver, bah, faut comprendre quels sont les besoins justement de ces visiteurs, de ces acheteurs, de ce qu'ils attendent.
Parce que si les acheteurs découvrent une marque sur Instagram, ils veulent quand même voir les choses physiquement. Donc c'est incontournable d'être à Paris, d'être en showroom ou sur un salon à Paris.
Incontournable.
Quoi.
Ouais. C'est incontournable. Il y a un moment, il faut montrer les choses. Alors, les rythmes sont de plus en plus différents. Les acheteurs veulent de plus en plus aussi des achats en début de saison et pas en fin de saison. Donc, la montée en puissance des précos est considérable. D'ailleurs, c'est même plus une préco, c'est la co qui est avancée. Et puis après, on fait des post-collections. Donc, on voit bien que la question des rythmes de la mode bouge considérablement aujourd'hui. C'est un des grands axes de cette modernité aussi. Et les marques doivent s'y adapter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantier, quoi.
Ouais, c'est énorme.
Développement durable, digitalisation, nouvelles règles du wholesale, de la vente, ça change beaucoup. Donc, c'est pour ça que les marques doivent être très attentives à ces changements-là. On vend plus aujourd'hui, on crée plus une marque de mode de la même manière qu'on le faisait il y a 5 ans. En 5 ans, tout a changé.
Comment c'est reçu, ça, ces changements, par les acteurs historiques? Parce que quand tu es une jeune marque aujourd'hui, tu as bien compris qu'il fallait être clivant, il faut avoir une communauté, il faut être sur Instagram, il faut être développement durable, c'est beaucoup de choses. Mais les gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et qui n'avaient pas anticipé ces changements, comment ils reçoivent ce type d'infos?
Il y a deux attitudes.
Ouais.
Il y a l'attitude « je baisse les bras, j'arrête, c'est trop compliqué, c'est trop dur, j'ai trop donné ». Et ça me rend très triste, en fait.
C'est terrible.
Parce qu'il y a des marques qui s'arrêtent, quoi. Parce qu'il y a des aventures très belles, des super histoires qui, malheureusement, trouvent pas leur marché, ont pas trouvé les bons moyens de parler à cette nouvelle cible, quoi, à cette nouvelle génération. Et puis, ce qui me touche beaucoup, c'est au contraire ceux qui remontent les manches, quoi, et qui disent oui, il est temps qu'on se remue les fesses. C'est beaucoup plus difficile quand on a une marque installée parce qu'il y a tout un système à faire évoluer, à embarquer avec soi. Et en même temps, quand on y arrive, bah, c'est génial. Donc, j'ai la chance, moi, d'avoir au sein du conseil d'administration de la fédération un garçon comme Eddie Veil, donc la marque Veil, qui n'est pas la marque la plus jeunette du monde, hein, clairement, et qui là vient de sortir une collection absolument sublime. Donc il a changé son designer, il a compris un truc, il s'est passé quelque chose, quoi. Et le Eli Veil, il est administrateur de la fédération, il n'a pas 40 ans, je crois, et c'est la troisième génération, la marque est super bien installée, ils ont un réseau de boutiques, ils vendent dans le monde entier, ils ont un immeuble magnifique à Montmartre. On pourrait croire que tout va bien pour eux. Ils auraient pu décider de continuer de faire comme avant, quoi. Et non, il y a des marques qui décident de ne plus faire comme avant et de comprendre que les choses changent. Voilà.
Qu'est-ce qui manque bien souvent aux jeunes entrepreneurs de la mode, d'après vous? C'est quoi les erreurs les plus fréquentes?
Ce qui manque le plus, c'est le sens de l'entreprise.
Le sens de l'entreprise.
C'est que il suffit pas d'avoir des jolis vêtements pour avoir du succès.
Ouais.
Et pour créer une boîte, faut gérer une équipe, faut gérer de la prod, faut avoir de la trésorerie, faut payer sa prod avant de pouvoir vendre, faut trouver les bons moyens de distribution, faut faire sa com. Enfin, c'est super compliqué de monter une boîte de mode aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est compliqué, quoi, et que d'avoir du goût ou d'avoir envie de faire des choses un peu différentes, ça suffit pas pour avoir du succès. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, sur tout ce qui est nouvelle génération, à la fédération et sur notre service entreprise, parce que c'est un outil génial pour faire prendre conscience à tous ces entrepreneurs de ce que ça veut dire que de monter une boîte de mode. Et ceux qui sont le plus successful aujourd'hui, comme par hasard, c'est des gens qui viennent d'école de commerce. C'est pas des gens qui viennent de style. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu une marque, à l'exception notable de Jacquemus, qui porte le nom de son designer et qui a émergé à Paris, quoi. Depuis Isabelle Marant, c'est le grand désert. Donc, il y a eu plein d'autres choses super belles. Il y a eu Cézanne, il y a eu le slip français, il y a eu Bali
Paris. Des super aventures.
Il y a eu des aventures absolument dingues qui continuent de se faire. Mais on voit bien que c'est plus la même chose. La focale, elle est plus au même endroit. Elle n'est pas uniquement, en tous les cas, sur le produit. Ça ne suffit pas. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que la fédération, elle tente d'aider et de combler toutes ces lacunes en multipliant toutes ces formations, toutes ces études, tous ces services entreprises, ces mises en contact.
Et justement, concrètement, pour tous les aspirants entrepreneurs, créateurs qui voudraient s'adresser à la fédération, par quel chebou il faut... Qu'est-ce qu'il faut pour que vous les suiviez et que vous les accompagniez ?
Il faut déjà faire quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires.
Voilà. Ce qui est déjà énorme.
Mais je vous assure qu'il y en a déjà tellement, et c'est déjà tellement fragile quand on fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Donc il faut déjà avoir eu un contact avec le marché et avoir fait ses preuves, quoi.
Ouais.
Donc il faut déjà avoir prouvé que le produit qu'on vendait, qu'on propose... Et l'entreprise que l'on a, elle tient la route. Et le seul critère qu'on a, nous, c'est de se dire, c'est le chiffre d'affaires, quoi. C'est de se dire, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que quand on est un petit peu plus bas, on chope quand même des subventions. Enfin, on se débrouille, quoi. On aide, bien sûr. Mais si on part de zéro et si on fait 20 000 euros de chiffre, c'est compliqué. Voilà. C'est pour nous très compliqué. Les porteurs de projets... Malheureusement, la fédération n'a pas les outils pour pouvoir les aider. On peut aider les entreprises une fois qu'elles sont déjà un petit peu constituées. Et on le fait avec grand plaisir.
Et ceux qui ont pas ces centaines de milliers d'euros, vers qui il faut qu'ils s'adressent ?
Eh ben, c'est très compliqué pour eux.
Ouais.
Donc, vers qui il faut qu'ils s'adressent ? Les friends and family, déjà.
Son réseau, ouais.
Son réseau, mais ça vaut dans la mode et ça vaut...
Partout, bien sûr, ouais. On est d'accord.
Évidemment. Et ça veut pas dire que de l'argent, ça veut dire trouver le bon pote qui va faire les jolies photos pour son Insta, ça veut dire le copain qui va aider à faire la compta, si on est styliste soi-même, enfin tout ce petit réseau là qui est très très important pour les pour les entrepreneurs de mode. Et puis après il y a effectivement des incubateurs, les ateliers de Paris.
Oui, c'est vrai.
Qui sont géniaux, avec Florence Sainz. Donc nous, on a une convention avec les ateliers de Paris qu'on aide. On est sponsor du Grand Prix de la ville de Paris, y compris pour la section Jeune Création. Mais il y a la même chose à Lille, il y a la même chose à Marseille, il y a la même chose à Lyon. Donc faut pas penser non plus que la mode est un phénomène exclusivement parisien, quoi. Il y a aussi partout en région des initiatives géniales et des incubateurs, des maisons de mode qui aident toutes ces marques qui veulent se lancer. La première étape, c'est ça.
Très bien.
La deuxième, c'est la fédération.
Qu'est-ce qui vous impressionne beaucoup en ce moment dans le monde de la mode, bien sûr, que ce soit des créateurs, des sites internet, des retailers. C'est quoi les best practices qui vous impressionnent vraiment en ce moment ?
Il y a plein de choses nouvelles qui se créent qui m'impressionnent. Les succès sur le digital, moi, m'impressionnent énormément. Donc, je suis pas le seul, hein, mais Cézanne, c'est un succès de dingue. Et on voit bien qu'en partant de la mode, on peut faire d'autres choses. Là, ils ont lancé il y a quelques jours leur site Grand Numéro de voyage. Donc, on voit bien que à partir de la mode, on arrive à faire plein de trucs géniaux. Une autre histoire, moi, qui me touche beaucoup, c'est le site français. C'est Guillaume Gibault. C'est pas nouveau non plus, mais aujourd'hui, ça doit faire 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 500 000 pièces par an, c'est de la fabrication française et c'est ça, moi, qui me touche beaucoup. C'est de continuer à fabriquer en France avec un produit relativement accessible, même si le slip est à 32 euros, donc relativement, hein. Mais à trouver son chiffre, à développer un réseau, à trouver des investisseurs, à développer une équipe et continuer à produire en France à 100% son truc, je trouve ça remarquable. Des aventures comme Rouge, Jeanne Damas... qui lance sa maille à partir de son Insta, C'est génial, quoi, ça aussi, comme histoire. L'aventure Jacquemus, elle est extraordinaire. L'aventure Y Project, elle est extraordinaire aussi. L'aventure Maison Château Rouge, dont on a parlé tout à l'heure, pour moi, c'est un truc... extrêmement enthousiasmant, quoi, de voir qu'un mec qui vient pas de la mode, au métro Château Rouge, lance une marque à un succès, développe un chiffre d'affaires, devient le chouchou des Galeries Lafayette, est embarqué avec Macron dans son avion, dîne à l'Élysée, enfin... Tout ça, ça montre que la mode est encore très ouverte sur des nouvelles aventures. Sur,
et c'est quoi le dénominateur commun de tous ces gens ?
L'enthousiasme des fondateurs. Le happy face. La volonté de s'en sortir. La volonté de prouver via leur métier, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'enthousiasme, qu'ils sont capables de créer une boîte et d'embarquer avec eux leurs fournisseurs, leurs clients, leurs salariés, leurs copains, etc.
Très bien. J'aimerais qu'on parle de Moneybox, si vous le voulez bien. Donc ce fonds que... Enfin, je ne sais pas comment vous l'intitulez d'ailleurs. Est-ce que c'est un fonds, c'est pas un fonds, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous... Ce qui m'intéresse dans ma question, c'est qu'est-ce que vous regardez vraiment quand vous décidez d'investir dans une boîte ?
Ouais. Donc Nelly Roddy Moneybox, c'est effectivement la petite société qui est en charge de l'investissement au sein de notre famille Nelly Roddy, que j'ai créée il y a 5 ans, je crois. Mm. Pour nous rapprocher justement de toute cette effervescence du monde de la création, du monde de l'entrepreneuriat, du monde de ces types et de ces filles qui se créent, qui ont des visions très différentes. Chez Nelly Roddy, on est déjà un truc très bizarre. Donc Nelly Roddy Moneybox, c'est aussi un truc très bizarre. Nelly Roddy est un truc très bizarre parce qu'on fait de l'innovation, de la création. On vient des tendances, on fait aujourd'hui de plus en plus de stratégies et de marketing. Il n'y a pas de définition pour notre métier. On accompagne toutes ces marques, petites, grandes. Et nous, ce qui nous motive, c'est de participer à cette transformation, quoi, du paysage de la mode. Et donc, il n'y a pas de définition, mais ce que l'on fait, c'est ça. C'est grand, petit, aider toutes ces entreprises, accompagner toutes ces entreprises à se métamorphoser, à prendre le pouls de la modernité, de l'air du temps, et à trouver comme ça leur botox dans donc leur manière de se renouveler. Dans une analyse, dans une vision du monde, accompagnée par les équipes de Nelly Roddy. Alors Nelly Roddy Moneybox, donc, c'est fait pour investir, c'est aussi fait pour accompagner. Gracieusement, évidemment. Donc on met de l'argent au début dans les boîtes, des petits tickets, hein, ça va de 10 000 euros à 100 000 euros, donc c'est pas non plus, on n'est pas un fonds d'investissement absolument énorme. On ne veut pas devenir majoritaire dans les boîtes, hein, loin de là. Ces boîtes dans lesquelles on investit, ce n'est pas nos boîtes. C'est toujours les boîtes de ces entrepreneurs à chaque fois. Et après, ce qui est sympa, c'est que gracieusement, donc, ils peuvent faire appel à toute l'équipe de Nelly Roddy, au réseau de Nelly Roddy, quand ils en ont besoin. Mais ça peut être aussi bien pour trouver une société de ménage que d'optimiser son plan de collection, trouver un avocat, trouver un banquier compréhensif, etc. Donc, c'est très divers et c'est très à la demande des sociétés en question. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ces boîtes ? On a aujourd'hui 5 ou 6 participations. C'est que toutes, elles sont liées à l'innovation, donc au métier fondamental de Nelly Roddy. Il faut qu'elles aient quelque chose de nouveau à dire sur le marché. Il faut déjà qu'elles aient fait leurs preuves, là aussi, qu'elles se soient déjà confrontées un petit peu à un marché. Et il faut qu'il y ait un entrepreneur très sympathique, quoi, derrière. Et ensuite, le dossier est proposé au comité de direction de Nelly Roddy. Et tous ensemble, donc avec Nathalie, Nargis, Pierre-Édouard, Audrey, Laurence, enfin tous les membres du comité de direction de Nelly Roddy, on choisit ensemble si on investit ou si on n'investit pas. Donc une des marques dans lesquelles on a investi et que j'adore, c'est Etude Studio, qui est une marque, donc un label de mode masculine. Que j'ai rencontré sur le salon MAN, parce qu'à l'époque, ils étaient sur un salon. Aujourd'hui, ils défilent dans le calendrier officiel de la Fashion Week. Et j'ai une immense admiration pour ce qu'ils ont fait. Pour leur point de vue, pour ce qui est, leurs vêtements, évidemment, hein, pour aussi tous les livres, la photographie, le travail de design qu'ils réalisent et qui est super intéressant. Et puis, il y a 4 ans, quand on a investi Mal Sportswear, on n'en parlait quasiment pas, quoi. Et donc, cette vision de la mode de la rue, d'une culture du graphe, d'une culture du street, d'une culture de l'art contemporain, d'un art très actuel, d'une expression très libre, du sport, tout ça a été super intéressant et c'est ce qui nous a tous motivés quand on a décidé d'accompagner Etudes et qu'on est toujours absolument ravis d'accompagner. C'est une boîte qui se développe à la vitesse de la lumière, on n'en parle toujours pas assez à mon goût. Mais là, ils font un pop-up au Galeries Lafayette qui est un truc de dingue, ouais. Qui a un succès fou. C'est très, très
chouette. Impressionnant. C'est quoi les autres boîtes dans lesquelles vous avez des participations?
Alors, on ne peut pas parler de toutes.
Ah.
D'entre elles, donc, on peut dire aussi qu'on est dans Horace,
ouais.
Qui est ce site
cosmétique,
ouais, de cosmétique pour hommes créé par Marc Briand-Terlet.
Ouais.
Qui est d'une plateforme qui au départ était une plateforme qui vendait plein de produits très différents et puis après ils ont créé leur propre marque, donc ça, Marc se débrouille comme un chef avec Karim et ils font une équipe de choc et
ça, absolument que je l'interviewe, ouais.
Ah mais il est génial, ah, ouais. Lui il va vous donner la pêche,
hein. Ouais.
Non, il est topissime, vraiment
cool, très bien. Ça ressemble à quoi vos journées? Parce que vous êtes sur plein de sujets en même temps. Comment vous faites pour vous organiser? Est-ce que vous avez des petits hacks d'organisation?
Alors, je suis à la fois un besogneux et un rigoureux. Donc, ça aide. Donc, je me lève relativement tôt le matin. Je travaille tard le soir. Mais à l'image de beaucoup de gens. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe géniale. Donc cette équipe, elle me porte aussi beaucoup. Elle me soutient et elle m'aide beaucoup à m'organiser. Mais c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. C'est-à-dire que pour que, quand on fait beaucoup de choses comme moi, je pense, faut aussi donner beaucoup de confiance aux gens qui vous, ouais, entourent et beaucoup d'autonomie. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc les gens qui m'entourent sont extrêmement proactifs aussi. Donc, c'est eux qui gèrent un peu mon agenda à ma place. J'avance à leur rythme. Donc, ouais, j'impose un rythme aussi, évidemment. Mais une fois que le rythme est pris, tout le monde avance, quoi. Et donc, concrètement, bah, je partage mon temps entre Nelly Roddy et ses filiales internationales et la fédération. La fédération, c'est un job totalement gratuit, hein. Je fais ça totalement bénévolement. Parce que ça m'intéresse, parce que je considère qu'à un moment dans sa vie, c'est aussi bien de donner aux autres quand on a reçu beaucoup. Mais ça m'occupe quand même un jour et demi par semaine, donc il faut pouvoir assumer.
Ouais, c'est clair.
Et donc, 3 jours et demi chez Nelly Roddy. Et le week-end, je ne travaille pas en revanche. Donc pendant la semaine, j'ai un rythme de fou, mais le week-end, c'est ma famille. Et concrètement, les jobs sont très séparés parce que je suis aussi très attentif à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre Nelly Roddy et la fédération. Donc, j'ai 2 assistantes, j'ai 2 téléphones portables, tout ça est très séparé, quoi. Je veux pas le moins possible d'overlap entre les deux sociétés. Et ça m'aide finalement, le fait de ne pas avoir de marque de mode moi-même, donc de ne pas bénéficier directement de tous les avantages de ce que peut apporter la fédération à ses adhérents, ça m'aide beaucoup parce que du coup, il n'y a pas de débat. Quoi. On ne, ouais, peut pas dire qu'il fait ça pour sa boîte ou pour sa gloriole personnelle ou pour je ne sais quoi. Ce n'est pas le cas.
Vous parlez de vos collaborateurs. Comment vous les choisissez?
Curiosité et autonomie. Et j'insiste beaucoup, encore une fois, sur cette question du rythme.
Ouais.
C'est que, comme à la fois chez Nelly Roddy et à la Fédération, vous voyez qu'on fait des choses, on fait beaucoup de choses. Donc, ce beaucoup doit être très organisé. Donc, ce que j'apporte, je pense aussi, c'est que d'anticiper cette organisation. À la Fédération, par exemple, on sait dès le mois de novembre tout ce qu'on va faire pendant toute l'année d'après. Toutes les grandes actions de communication, les grandes actions, les grands plans, tout ça est mensualisé presque semaine par semaine. On sait qu'on va prendre la parole à tel moment sur tel sujet. Parce que c'est en rythme avec les actions de la fédération. Chez Nelly Roddy, c'est pareil. on a un plan d'action qui est très, très, très précis et qui est très anticipé.
Annuel.
Oui. Alors, ça, on se laisse des poches de liberté bien à chaque sûr, fois, hein, évidemment. Mais on sait qu'à la rentrée de septembre, on parlera de ça. On sait qu'en janvier, on parlera de ça. Donc, parce que la mode est aussi rythmée par des grands moments, hein, qu'il nous faut prendre la parole, donc ça nous aide. Mais cette anticipation, elle est très, très importante. Ouais. Et donc, il faut que nos gentils collaborateurs prennent ce rythme-là et proposent et soient dans le mouvement. Donc, il y a moi, je considère vraiment mon rôle comme un coordinateur. Comme le type qui propose une plateforme à des gens, une place, et après, c'est à ses équipes, à ses personnalités, de prendre la place en question et ensuite d'inventer leur propre périmètre. Ils veulent faire des choses en plus de leur mission. Pas de problème, vas-y. Prends du temps, on t'enlève un truc, si machin, on trouve des moyens. Si t'y crois, vas-y. Mais il faut proposer des choses. Donc, du coup, il n'y a pas un seul moteur, ni chez Nelly Rodin, ni à la Fédération. Il y a plein de moteurs différents. Il y a un type qui coordonne, c'est moi, c'est ma fonction. Il y a un type qui donne les ressources aux uns ou aux autres. Mais chacun, du stagiaire jusqu'au responsable du service, est moteur de chacune de ces organisations et a le devoir de proposer des manières de faire évoluer son organisation.
Parlant de moteur, c'est quoi votre moteur? Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins?
Moi, le travail bien fait. C'est très simple. Il faut que le travail soit fait.
Ouais.
Voilà. Donc, on a une mission. Une fois qu'on a décidé qu'on avait une mission, on l'a fait jusqu'au bout. Et on l'a fait bien. Voilà.
Très bien. C'est quoi le livre que vous conseillez le plus souvent aux jeunes créateurs d'entreprise? Si vous en avez un. Ou pas forcément pour les créateurs d'entreprise, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête?
Illusion perdue, Balzac.
Très bien. Illusion perdue.
C'est un joli titre. Ça commence par une selle de bal à l'opéra absolument sublime. Et ben pour un entrepreneur, ouais, faut apprendre à se casser la gueule. Et puis, il faut apprendre à remonter très vite.
Ouais.
Donc, c'est normal d'avoir des illusions perdues de temps en temps. Mais il ne faut pas en avoir trop, évidemment.
Si vous pouviez recommencer quelque chose dans votre carrière professionnelle, qu'est-ce que vous feriez différemment?
Rien. Je suis très heureux et très fier de tout ce que j'ai fait.
Très bien. Et dernière question, pour passer le relais, sauf si vous avez des choses à rajouter. Qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Trois personnes.
Ouais.
Nicolas Santiveil, le patron d'Ami, pour lequel j'ai un immense respect, qui a une carrière professionnelle absolument dingue et qui a, lui, une énergie, un dynamisme que j'admire beaucoup. Guillaume Gibault du Slip français, qui incarne la figure de l'entrepreneur français aujourd'hui bien au-delà de l'univers de la mode. Et puis Fanny Péchioda, qui avait fondé My Little Paris, qui a toujours été excessivement discrète et qui a quitté My Little, qui doit donc se relancer dans plein de nouveaux projets. Et puis ce regard féminin, je pense qu'il est super important dans l'entrepreneuriat.
C'est clair. Très bien. Eh bien écoutez, Pierre-François, merci infiniment.
Merci beaucoup, Adrien.
Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.